Donc, comme promis, nous retrouvons Romain, toujours à la librairie Le Grain des Mots, hein, sur le jeu de paume. Alors, si vous connaissiez la librairie normale, bah, vous allez quelques mètres plus bas, puis vous arriverez dans le local provisoire de la librairie. Et alors là, on va parler de quelques-uns de vos coups de cœur, alors littéraires, d'essais, dans tout genre.
Voilà, je vous ai sélectionné quatre petits ouvrages que j'ai vraiment, vraiment appréciés ces derniers temps. Alors, pour rester dans les essais et toujours dans le... dans les essais un peu sociaux et politiques, je vous conseille aux éditions L'Échappée, La révolte ludite, Les briseurs de machines à l'ère de l'industrialisation, un ouvrage assez incroyable sur... ce mouvement, cette époque, et qui montre bien en fait les sacrifices qui ont été exigés de la population pour permettre toute cette industrialisation, cette première phase balbutiante d'un capitalisme destructeur, et les différents modes de rébellion et de révolte qu'ont utilisé les ouvriers du tissage. C'est très bien écrit, c'est très intéressant, c'est complet.
Et c'est... Alors, pour situer historiquement la révolte ludite...
1813, je crois. En Angleterre, dans un tout petit triangle très localisé, et après qui a essaimé un peu plus, mais surtout qui a provoqué une réaction extrêmement violente des possédants. Enfin voilà, on a des parallèles avec notre époque qui sont assez frappants, et on voit le côté précurseur de ces ouvriers qui ont senti venir les choses et qui ont vraiment essayé de dire non, clairement
et trouver des alternatives.
Voilà,
aussi.
Absolument, et qui ont été vaincus dans les grandes largeurs, mais qui peuvent, leur expérience peut nous apporter pas mal d'informations et d'idées, je pense.
D'accord. Alors ensuite, on va passer à de la science-fiction.
La science-fiction, voilà, parce que j'ai trouvé ce petit ouvrage à la Volte qui s'appelle La Trame, d'un collectif qui s'appelle Bombix Mori. Et pour tous les fans de Damasio un peu en difficulté de retrouver cette langue, ce genre d'écriture, je vous le conseille. On suit La Trame, qui est un groupe de nomades dans un monde complètement post-apocalyptique, mais sous l'emprise d'une végétation mutante, avec les marées sont de la végétation, et on peut, si on se fait attraper par cette marée, on redevient végétal. Tous les corps animaux, elle colonise tout et elle fait tout redevenir à l'état végétal. Et donc vous avez ceux qui vivent à l'abri, un peu comme dans la Horde, abrités du vent, et il y a ceux qui sont dans la trame et qui se divisent en toutes sortes de rôles pour aller essayer d'aller chercher les trésors qui se trouvent dans la trame, des produits, des tissus, toutes sortes de choses qu'on peut récupérer de cette espèce de matière vivante extrêmement agressive. Et la langue est absolument délicieuse.
Voilà, et puis on a une science-fiction là qui est, on est du côté de l'anticipation, et puis il y a une dimension sociale de la science-fiction qui...
Absolument, parce que
ça crée... Qu'il ne faut pas oublier, c'est pas le space opéra, c'est
non,
autre chose.
Non, du tout, on est dans une science-fiction assez difficile à décrire. C'est post-apocalyptique, mais on met l'accent sur les interactions entre les individus, comment une horde nomade peut s'organiser... de façon presque naturelle, avec répartition des rôles, entraide, relations sociales assez différentes, avec aussi on sort de nos problèmes de patriarcat, nos problèmes de genre, de nos problèmes de tout ça. Il y a une grande liberté qui est assumée, on n'est plus dans une société qui est normée, tout a été détruit, tout est tombé, et donc on a un foisonnement, un pétillement d'idées et d'initiatives qui montrent qu'en fait on est beaucoup plus riche en imagination que ce qu'on croit.
Dans ce que vous dites, j'entends comme un message derrière, le végétal est l'avenir de l'homme, en quelque sorte.
Peut-être, là c'est un végétal un peu agressif, hein. on revient à une espèce d'unité un peu primaire.
C'est plus un avertissement.
Voilà, il vaut mieux s'en tenir un peu à l'écart quand même, c'est quand même dangereux.
Alors encore un bel éditeur, C'est bien parce qu'on parle d'éditeurs qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène et
on
du marché, fait. On va dire.
C'est hein. ça. Bah alors, c'est je pense
Zulma,
que
Zulma qui a un magnifique travail de traduction.
Hein,
beaucoup d'éditeurs, d'auteurs venant d'un peu tout du monde entier, quasiment
monde.
Partout. Hein.
Voilà, une curiosité littéraire vraiment, vraiment rafraîchissante. En plus, avec à chaque fois, alors c'est peut-être un peu superficiel, mais je trouve que ça a son importance. Les couvertures qui sont à chaque fois magnifiques, très colorées. Ouais. On les identifie très bien.
Et très facile à identifier. Hein. Un motif répétitif à chaque fois, en noir et blanc ou en couleur.
Ou en couleur, c'est très visible. Et puis c'est vraiment des beaux objets, de beaux papiers.
Et souvent un triangle plutôt qu'un encadré pour mettre le titre.
C'est ça. Et là, donc, on est dans les Pyrénées espagnoles, dans un village de bergers. Alors divisé, la vie est dure, les maîtres, il y a une société, on va dire, presque féodale qui perdure depuis 1000 ans, je crois, et rien ne bouge, tout est fixé, mais un jour vous avez un jeune berger, très pauvre, et l'héritière de la plus grande maison du village, la plus grande ferme, qui vont tomber amoureux. Évidemment, tout va s'opposer à leur union. On leur explique bien qu'il n'y aura pas la moindre chance que quoi que ce soit se réalise. Mais alors que le village est depuis des centaines d'années dans l'immobilisme, ce berger va instinctivement refuser de plier. Il va vouloir pouvoir conquérir sa fiancée, enfin son amour, et refuser surtout la sentence négative du père. Donc il va partir dans la montagne, et ce berger va très vite représenter l'espoir pour tout le village, en fait. Un village qui n'était pas du tout en révolte, ça va personnifier l'espoir d'un jour pouvoir sortir de sa situation misérable de berger, d'esclave, en fait. Et si les maîtres s'acharnent sur ce berger en continuant à maintenir leur interdiction, ça leur coupe tout espoir, à tout jamais, de jamais sortir de cette vie extrêmement dure. Et donc c'est complètement intolérable, c'est un message, c'est comme une gifle, en fait. Et vous suivez tout cet événement à travers les yeux de l'instituteur du village qui posait les mêmes questions en ville, donc qui a été muté au fin fond des Pyrénées, et qui regarde ça avec un peu de recul, mais qui va se laisser quand même entraîner par la beauté de l'histoire, de cette histoire d'amour contrariée. Et voilà, et Lorenzo Mediano, vraiment vous faire sentir l'auteur, vous faire sentir cette âpreté de la vie qu'on questionne pas tant qu'on n'a pas sous les yeux la possibilité d'autre chose. Des centaines d'années à faire exactement la même chose, à vivre dans les pires difficultés, et un jour quelqu'un se dresse, et là ça déclenche quelque chose dans tout le village.
Voilà. Et puis alors, soulignons par rapport au travail de l'éditeur, bon, il s'agit d'un auteur espagnol, un premier roman.
Absolument.
Ce qui est quand même... J'ai envie de dire faussé pour traduire un auteur, un premier roman d'un auteur étranger.
C'est ça, mais ça arrive souvent.
Il y a une prise de risque, et Zulma sait prendre ce type de risque.
Ils savent faire, ils le font pas mal, et c'est très courageux, et nous on apprécie beaucoup, parce que ça renouvelle beaucoup nos lectures, déjà. C'est vraiment...
Et puis on va mentionner le nom de la traductrice, Hélène Michou, parce qu'on oublie toujours les traducteurs, et c'est bien dommage. Ce n'est pas juste. Et puis on va finir, allez, sur une petite note un peu plus...
Un peu plus légère.
Mais grave en même temps.
Absolument. Ouais. Alors, grave, oui, si on le prend trop au sérieux, mais disons que c'est que, voilà, pour quand même dérider un peu la fin des coups de cœur, là, je vous parle d'un petit... Alors, ça se veut une étude de mœurs, mais c'est une étude de mœurs dessinée. Donc, ça s'appelle « Scène de la vie postmoderne ». C'est réalisé par Maxime Morin et Marguerite Henbel. Et voilà, vous allez vous plier de rire à chaque page. C'est un dessin par page accompagné d'une petite phrase. Et c'est jouissif. C'est juste... c'est délicieux. C'est notre vie de tous les jours, mais vu sous un angle... assez original, un point de vue très original, et je peux vraiment pas trop vous en dire parce que c'est la chute et l'angle d'attaque est est vraiment très drôle et fait partie de ça. Mais je vous conseille de jeter un coup d'œil en passant à la librairie, de regarder comme ça. Vous prenez ce bouquin, n'importe quelle page, et vous regardez si ça vous parle. Et si ça vous parle, tout le bouquin vous parlera. Je crois que j'ai ri vraiment à chaque page.
Là, je viens d'ouvrir un peu au hasard. En même temps, on voit sur le dessin un homme qui supplie une femme. Apparemment, il doit y avoir une dispute de couple. Voilà.
Elle est fâchée, elle tourne le dos, lui est de dos avec les mains jointes.
Et la phrase, alors, phrase très courante, mais un petit peu amplifiée, déformée, on va dire. Hein. Et donc le personnage dit, par pitié Audrey, laisse une seconde chance au patriarcat.
Voilà, c'est... voilà. C'est
bon, et tout le livre est dans ce ton-là. Dans ce ton-là. Je vais montrer quelques autres pages.
Voilà, dans les rapports de couple, les rapports aux enfants aussi, la parentalité et tout ça, des scènes qui sont complètement.
Et puis je me dis, c'est. Voilà, le côté enfin grave, mais le talent là de ça, c'est à travers des petites phrases anodines qu'on pousse un petit peu. On fait apparaître la logique qui est derrière les choses qu'on dit sans faire attention.
Bah, c'est comme le titre dit, c'est la scène de la vie postmoderne. Donc on est dans quelque chose qui va au-delà de la bienséance, mais de la norme acceptée. Il pousse un peu plus loin des choses qu'on dit tous les jours, ou qu'on pourrait dire au milieu d'une conversation sans que ce soit aussi choquant. Mais quand on sort cette phrase et qu'on y pense juste en tant qu'elle-même, on se dit que la société va très mal quand même. Va très très mal.
Voilà, et on peut en rire.
Et on en rit.
Et ça fait du bien aussi, ce qui n'empêche pas après de se mobiliser pour ne pas seulement en rire.
Exactement.
Merci beaucoup Romain, et puis on se retrouve d'ici un mois à peu près pour d'autres actualités, d'autres coups de cœur.
Avec plaisir. Merci à vous.